Le grand empereur Ashoka fit du bouddhisme la religion du peuple. Au cours du 3e siècle avant Jésus-Christ, un personnage qui devait avoir une influence spectaculaire sur le cours de l'histoire du bouddhisme fit son entrée en scène en Inde. C'était l'empereur Ashoka, le 3e souverain de la puissante dynastie Maurya, qui avait été fondée par son grand-père. N'oubliez pas, Ashoka est l'homme qui a le plus contribué à faire du bouddhisme une religion mondiale. Au début de son règne, vers 268 avant Jésus-Christ, Ashoka mena les mêmes politiques expansionnistes et guerrières de son grand-père et de son père. Ses conquêtes étaient si grandes qu'il finit par régner sur un empire qui s'étendait sur une vaste partie du sous-continent indien. Mais sa campagne sanglante pour mater une rébellion dans la région qui est aujourd'hui l'état d'Orissa entraîna la mort d'un si grand nombre de gens qu'Ashoka fut horrifié par ses propres actions. Regrettant profondément toute la souffrance qu'il avait causée, il se soumit à une profonde transformation spirituelle. Devenu familier de l'enseignement du Bouddha grâce à un moine qu'il avait rencontré, Ashoka prit la décision capitale de gouverner son empire selon les principes bouddhistes de la non-violence et de la compassion. Ashoka entreprit de mettre en pratique ses principes nobles à une échelle inégalée. Par exemple, il abandonna sa politique de conquête militaire et se consacra à la place au bien-être de ses sujets. Il fonda des écoles et des hôpitaux et fit même creuser des puits le long des routes pour soulager la soif des voyageurs. Dans l'esprit de respect et de tolérance, il accorda le soutien royal à de nombreuses institutions religieuses différentes, pas seulement les institutions bouddhistes. En raison de sa volonté de diffuser le code moral bouddhique, il ordonna que des édits soient gravés dans des stèles et sur des rochers à travers tout son empire pour exhorter ses sujets à se traiter les uns les autres avec générosité, humilité et honnêteté. Ashoka encouragea aussi la pratique du pèlerinage, en visitant divers endroits que le Bouddha avait bénis par sa présence. Pour en savoir plus sur les pèlerinages, voir le chapitre 9. Et il ordonna la construction de milliers de monuments funéraires, stupa, dédiés à l'éveillé. Ayant pris pour exemple la dévotion de leur empereur, de nombreux sujets d'Ashoka commencèrent eux aussi à s'intéresser au bouddhisme, et le nombre d'adeptes du bouddhisme s'accrut de façon spectaculaire, particulièrement parmi les laïcs issus du peuple. Avant Ashoka, le bouddhisme était séduisant surtout pour les gens qui étaient instruits ou occupaient une situation importante dans la société. Après Ashoka, il devint bien davantage une religion du peuple. L'empereur Ashoka envoya aussi depuis l'Inde des émissaires aux quatre coins du monde pour diffuser la parole du Bouddha. Certains d'entre eux sont supposés avoir atteint des contrées aussi éloignées à l'ouest que l'Égypte, la Syrie et la Macédoine, bien qu'on ne dispose d'aucune preuve qu'ils aient eu de l'impact dans ces pays. N'oubliez pas, la mission au Sri Lanka, elle, fut un énorme succès. Deux des émissaires envoyés par cette nation insulaire étaient un moine et une nonne bouddhiste dont on dit qu'ils étaient les enfants d'Ashoka. Ils furent bien accueillis par le souverain de l'île, le roi Tissa. Et furent invités à la cité royale d'Anuradhapura, où un grand monastère fut ensuite érigé. La fille d'Ashoka avait emporté avec elle une bouture de l'arbre Bodhi, sous lequel le Bouddha avait obtenu l'éveil quelque 300 ans auparavant. Et le descendant de l'arbre issu de cette bouture occupe aujourd'hui encore un site de pèlerinage populaire au Sri Lanka. Voir le chapitre 3 pour connaître l'histoire de l'arbre Bodhi. N'oubliez pas, c'est finalement à Anuradhapura, au Sri Lanka, que l'enseignement du Bouddha fut pour la première fois consigné par écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Certains historiens précisent en 88 avant Jésus-Christ. Au cours des 400 années précédentes, différentes versions de cet enseignement avaient été transmises oralement, dans différentes langues et différents dialectes, d'une génération à une autre. La forme particulière du Tripitaka, les trois corbeilles que nous mentionnons dans la section « La division de l'enseignement en trois corbeilles » plus haut dans ce chapitre, transcrite à cette époque, était celle qui fut conservée dans la tradition Theravada, qui arriva au Sri Lanka avec les enfants d'Ashoka, et fut finalement diffusée à travers toute l'Asie du Sud-Est. Sa langue était le pali, l'une des plus anciennes langues indiennes. Aujourd'hui encore, plus de 2000 ans après, nombreux sont ceux qui se réfèrent au canon pali du Theravada lorsqu'ils veulent goûter au bouddhisme d'origine.